Bonsoir Marie.
Oui Arnaud, bonsoir. Le metteur en scène, Cyril Test, va présenter à partir du 15 décembre à Bonlieu, la scène nationale d'Annecy, sa nouvelle mise en scène, une adaptation de La Mouette de Tchekhov, dont Olivier Cadio signe la traduction. L'occasion pour nous de nous interroger sur la nécessité de traduire à nouveau ces grands classiques de la littérature mondiale et plus fondamentalement sur ce que traduire implique et signifie. Olivier Cadio, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Ce n'est pas votre première traduction et ce n'est pas non plus la première fois que vous traduisez La Mouette. Alors quel est votre rapport à cet exercice? Vous êtes tombé en amour?
Avec la traduction de ce texte-là, un peu d'ailleurs, puisque j'avais déjà fait une version pour Thomas Ostermayer. Et je suis tombé en amour. C'est-à-dire que la plupart du temps, je fais des traductions qui sont dirigées vers un metteur en scène, qui sont dirigées pour le plateau. Là, dans ce cas de figure, je ne publierai pas la pièce, parce que elle est adaptée par Cyril Test. En plus, il a souhaité mettre des ajouts d'une nouvelle de Tchekhov qui s'appelle Une histoire banale. Donc c'est un montage. Donc c'est pas La Mouette. Donc c'est une mouette, si je puis dire, pour Cyril Test. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je vois la pièce, puisque le confinement a interdit les transports, les répétitions. J'ai trouvé ça d'une douceur. Alors c'est une pièce quand même effrayante, si on écoute ce qui se dit, ce qui se passe. J'ai trouvé ça d'une douceur et c'est comme si on avait l'impression d'assister à une sorte de naissance du cinéma. On avait du cinéma élémentaire, comme ça. Et le texte était assez, bon, je ne vais pas me faire des compliments, mais il était assez fluide, déjà. Et je crois que c'était d'ailleurs le souci de Cyril. Enfin, c'est pour ça qu'il a choisi cette traduction. Alors après, je ne suis pas traducteur professionnel. Je ne sais pas ce que ça veut dire, d'ailleurs. Enfin, c'est-à-dire que je ne travaille pas tout seul, dans mon coin. Je ne publie pas les textes, la plupart du temps. Je vais vous dire, après, ça change pour certaines pièces. Et je le fais toujours sur commande. Et ça change complètement les choses. C'est-à-dire que Cyril Test vient me chercher en disant « Ah, j'ai vu cette traduction, on pourrait la refaire ensemble. » Du coup, je peux destiner pour les intentions de... Je ne dis pas que ça va changer profondément la traduction, mais ça la tord un petit peu, ça la... J'écoute beaucoup ce que disent les gens avant même de commencer.
Mais ça se rapproche presque d'un travail de dramaturgie ?
J'irai pas jusque-là, mais la destinée de la pièce... teinte la traduction. C'est vrai, quand j'ai traduit pour Ostermayer, par exemple, j'ai traduit un Ibsen pour lui, j'avais carrément la version allemande sur laquelle il travaillait, et donc je voyais bien vers où il voulait aller. Je n'ai pas toujours suivi, mais je comprenais comment je devais infléchir le français en fonction de la volonté d'un metteur en scène allemand, par exemple. C'était très amusant. Alors après, j'ai commencé la traduction par chance avec ce projet extraordinaire de la Bible qui a été retraduite en intégrale dans les années 2000, par Frédéric Boyer, qui a eu l'idée géniale d'associer un exégète et un écrivain. Moi, j'ai eu la chance d'avoir les psaumes. Et donc, j'ai travaillé 6 ans avec quelqu'un, pratiquement quotidiennement. Et c'est là où j'ai pris le virus. C'est-à-dire que c'est vrai que si je ne fais pas une traduction tous les 2-3 ans, ça ne va pas.
Alors, manque.
Oui, parce que je ne suis pas traducteur professionnel, mais j'ai besoin d'abord de m'occuper du texte de quelqu'un d'autre. Ça fait beaucoup de bien quand on est écrivain soi-même. Et je pense que ça m'a aidé, après, dans l'écriture, à aller toujours plus loin dans l'hypercorrection. Parce que traduire, c'est revisiter un texte à l'infini, relire le même texte pendant 6 mois, 1 an, repartir du début quand on a compris quelque chose à la fin. L'expérience la plus incroyable que j'ai faite, c'est La Nuit des Rois, qui a été traduite pour Ostermayer pour le français, que j'ai publié cette fois-ci. Alors là j'ai fait un truc un peu différent d'habitude. J'ai vraiment travaillé avec quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Sophie McKeown, qui est spécialiste de la pièce. Et là, je l'ai publié, et je veux dire, j'ai presque fait indépendamment de la mise en scène. Vous voyez, alors donc, c'est un peu confus. Je change un peu d'avis, voilà. Mais dans ce cas de figure ici, ça, c'est destiné pour le plateau.
Est-ce que quand on est écrivain et que donc vous signez des traductions, il y a de Olivier Cadio, écrivain, dans les traductions que vous signez? Est-ce que ça déteint?
Des gens me le disent, qui me reconnaissent. Moi, je m'empêche absolument de projeter. C'est d'ailleurs très difficile à faire comprendre. Quand on a traduit les psaumes, par exemple, enfin, ou la Bible, son ensemble, les gens disaient, mais enfin, c'est épouvantable, les écrivains vont justement tirer vers eux. Et alors, ce qui est curieux, je pourrais dire, c'est l'inverse. Quand vous êtes écrivain, vous pouvez vous empêcher d'écrire, paradoxalement. Si je crois quelqu'un qui est un traducteur professionnel, a sans doute plus de tics. Parce qu'il n'est pas habitué lui-même à se corriger à l'infini pour faire un livre, par exemple. Donc, j'essaye absolument de tirer effectivement le texte vers moi, mais en revanche, je sais que j'utilise des méthodes, des techniques, des phrasés, une syntaxe, etc., qui vient aussi de mon expérience de la littérature, et pas seulement de moi. C'est pour ça qu'il faut sans arrêt traduire, parce que pourquoi traduire tout le temps ? Là, je dois faire un roi lire avec Ostermayer, sans doute. Pourquoi recommencer ? Il y a déjà des traductions qui sont très belles. C'est celle de bonne foi qui est très intéressante, qui est très belle. Pourquoi recommencer ? C'est parce que je vais utiliser un matériau technique qui n'est pas exactement le même. Donc c'est très simple, c'est très modeste et simplement, je ne sais pas si on... Je dis n'importe quoi, si on fait des voitures, elles ne ressemblent pas... elles ont un moteur et quatre roues, mais elles ne sont pas exactement pareilles. Ça ne veut pas dire mettre au goût du jour.
Oui, et à l'inverse, je me disais, est-ce que quand même, quand vous venez de traduire par exemple Tchekhov, est-ce qu'il y a du Tchekhov qui rentre dans vos livres que vous êtes en train d'écrire aujourd'hui ?
Non, pas directement, mais en revanche, le livre qui va sortir en janvier, par exemple, il y a beaucoup de dialogues. Alors, est-ce que c'est un hasard ? C'est-à-dire que je crois aussi que je fais mes classes, que j'apprends. Quand je traduis La Nuit des Rois, j'ai pris 8 mois pour le faire, ou Tchekhov qui a duré aussi longtemps, je m'exerce aussi, je fais mes gammes, et j'apprends. Mais je fais pas, ça rentre pas directement thématiquement, c'est plus exercice. J'étais pas un dialoguiste, je fais plutôt des monologues. Moi, tous mes livres précédents sont des monologues. Mais là, je crois qu'à force de croiser le fer entre des voix, bon, ça m'a...
Alors vous disiez justement, ce n'est pas des actualisations, hein, ce n'est pas une réécriture contemporaine de la pièce.
C'est-à-dire que ça l'est, mais il faut s'en empêcher absolument. C'est-à-dire qu'il faut s'empêcher d'être au goût du jour. C'est-à-dire que s'il y a dans une pièce un mot ou deux mots où les gens tiquent en disant « ça va pas », j'ai perdu l'opération. Et alors là, on rentre dans le vieux débat incompréhensible, la traduction, c'est faire revenir le passé dans le présent, etc. C'est tout un micmac. Parce que ce qui est paradoxal, c'est qu'il faut à la fois que ça puisse... une traduction doit tenir un certain temps, et en même temps, elle raconte aussi, elle nous donne une information sur nous, sur maintenant, sur la manière dont les spectateurs et l'écrivain, en l'occurrence, écrit, parle et pense. Et en même temps, il ne faut pas que ça soit moderne. Alors vous voyez, je ne peux pas répondre à la question. Mais je sais que c'est ça qui fait le travail. Le travail, c'est justement de régler cette contradiction tout le temps, tout le temps. C'est ça qui est passionnant. Il faut nous amener très très près du présent, faire revenir, je sais pas, dans Shakespeare, c'est assez extraordinaire, parce que si vous remontez Shakespeare à l'envers, vous êtes obligé d'oublier le 19e siècle où les traductions un petit peu Ivanhoé, débiles, à mon sens, de Shakespeare un peu grandiloquent, pour revenir vers le côté extrêmement fringant, puissant, agressif, cru du texte de Shakespeare. Mais du coup, les gens vont trouver ça plus moderne. C'est un paradoxe, alors que c'est un retour à l'ancien et à l'origine du texte. Vous voyez, en fait, il n'y a pas de réponse. Mais c'est ça qui est amusant. C'est pour ça que c'est un travail très, très étrange.
Bien, merci beaucoup, Olivier Cadio.
Et merci à vous, Marie Sorbier.